bonsoir.
Bonsoir, je suis Marie Bruno.
Et par conséquent, je suis Bertrand Gélier.
Tout d'abord, avant tout, merci bien sûr à la librairie Mola de nous inviter ce soir, et en particulier à Paul Roger qui a rendu possible cette rencontre. Pour nous, c'est un beau moment à partager avec vous. Sur l'écran, une image pour dire que cette personne nous accompagne ce soir. Peut-être certains la reconnaissent. Cette silhouette d'une jeune femme élégante dans un contexte bordelais, avec un petit sourire presque un tout petit peu pensif, mais aussi narquois. Donc c'est Josy Froment. Peut-être les plus anciens d'entre vous se souviennent de l'avoir rencontrée à la Galerie du Fleuve. Peut-être que les plus jeunes ont fait partie des enfants qui étaient les enfants qui ont suivi les ateliers de l'Arbus. Pour nous, Josy représente un long compagnonnage, et d'abord professionnel et puis amical. Et Josy vient de nous quitter il y a peu de temps. Donc voilà, elle est avec nous.
Voilà, c'était juste pour l'hommage, et oui, elle est avec nous. Nous sommes ici pour parler d'un livre, oui, c'est original, ça, qui s'appelle Passage, et tu veux dire quelque chose? Non, on ira après. Voilà, on va commencer avec cette image. Cette image, c'est une peinture d'un peintre palois qui s'appelle Victor Galos, qui représente la chaîne des Pyrénées, vue de Gélos, c'est-à-dire au pied de Pau. C'est un peu la vue que nous avons effectivement depuis Pau. Et Victor Galos a peint cette toile en 1861, et ce tableau est aujourd'hui dans la collection du musée de Pau, du musée des Beaux-Arts de Pau. Et on a eu envie de commencer par là, parce que c'est beau, non? Oui. C'est beau. On trouve les montagnes. On trouve que les montagnes sont belles, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Jusqu'au XVIIIe siècle, on trouvait les montagnes plutôt affreuses parce que les roches étaient torturées, l'accès était difficile, le climat était rude, et puis on les pensait peuplées de démons ou de sorcières. Et finalement, cette beauté des montagnes, c'est une chose récente, même si ça semble étrange de dire ça. Et ce sont sans doute les artistes, les peintres d'abord, mais aussi les poètes, les écrivains, qui nous ont appris ou qui ont formé notre regard sur la montagne. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve que les montagnes sont belles. Et c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que nous avons envie d'y grimper. Voilà, c'était un petit préambule sur ça.
Oui, alors pour présenter un livre qui en fait est le second livre sur les Pyrénées, la suite d'un premier livre qui s'appelle 55 jours. C'est un livre un peu qui est venu après une marche. En fait, ce livre, c'est le livre qui est le récit d'une traversée des Pyrénées d'Andaye à Banyuls, traversée à pied, que nous avons fait il y a 4 ans et que nous avons fait juste pour le plaisir de la faire, parce que c'est tellement mythique, c'est tellement exceptionnel de faire cette traversée que voilà, c'était pour ça. Et après l'avoir faite, cette traversée à pied, nous avons rencontré un éditeur, Jean-Luc Kerrebel, d'une petite maison d'édition qui s'appelle Kern. Et ce monsieur nous a dit, vous avez fait cette traversée, vous avez l'air d'en avoir apporté des choses qui vous investissent de quelque chose. Faites-moi un récit et je vais l'éditer. Donc nous avons raconté cette traversée des Pyrénées en 55 jours. Et on a écrit 55 jours bien gros, parce que c'est très long, parce qu'en général, les jeunes gens font ça beaucoup plus rapidement. Normalement, Georges Véron l'a décrit en 42 jours, mais il y a des jeunes gens qui font ça beaucoup plus vite. Nous, on voulait prendre le temps d'être dans ce milieu et de vivre ça. Et de vivre ça, la marche, on est beaucoup plus marcheur que grimpeur. La marche, c'est le temps long, c'est le jour qui succède à la nuit. Ça, voilà. Et c'est petit à petit cette formidable aventure qui consiste à passer du Pays Basque au Béarn, à la Bigorre, et de se rendre compte que toute cette mosaïque de petits pays, en fait, c'est cette formidable traversée des Pyrénées. Donc ça, c'est un livre qui est sorti il y a maintenant 4 ans.
3 ans.
Et voilà, et toujours notre éditeur qui nous dit, mais si vous avez envie de faire un autre livre, faites un autre livre. Et donc là, on s'est dit, comment on va maintenant rebondir? Parce que celui-là, c'était un peu un livre qui est venu comme ça.
Oui, mais en même temps, quand on a fait cette traversée, peut-être ce qui nous a le plus surpris, c'est qu'on pensait qu'on allait cheminer sur les crêtes dans une nature vierge et préservée. Et en fait, on a rencontré, on a croisé, on a vu beaucoup de témoignages d'une histoire humaine ancienne. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'on a pris conscience, effectivement, de cette complexité de la montagne, qui est à la fois cette image, celle de la peinture, mais qui est aussi un territoire qui est pratiqué et qui est humanisé. Et en fait, quand on traverse les Pyrénées de l'océan à la Méditerranée, en fait, on est sur un film, mais on ne voit pas grand-chose de ce qu'est effectivement ce massif, cette cordillère de mer à mer, mais qui se développe, même si elle se dresse subitement quand on va vers elle depuis la France, elle se développe de manière en profondeur, effectivement, du nord au sud et du sud au nord. Voilà, et excuse-moi de t'avoir interrompu, maintenant tu vas enchaîner sur ça.
Donc voilà, et de cette idée-là, en fait, de cette idée un peu géographique que nous avions fait un chemin, mais que nous avions croisé bien d'autres chemins, est venu ce nouveau projet qui consiste à écrire des passages, cette fois-ci, du nord au sud, à les écrire et surtout à les engager physiquement. C'est-à-dire, on s'est dit, en fait, ces cols, tous ces cols des Pyrénées, ils conduisent, ils sont pratiqués du nord au sud ou du sud au nord, vraiment pour traverser cette montagne. Et donc, essayons d'en repérer quelques-uns de ces passages et de les raconter. Voilà.
Alors, c'est juste cette phrase d'un sociologue philosophe qui s'appelle Henri Lefebvre, qui a écrit « Les Pyrénées séparent et relient la France à l'Espagne ». Je trouve que elle est là parce que c'est sans doute une bonne manière de résumer effectivement le propos qu'on a essayé de creuser, de travailler. Alors, que les Pyrénées séparent la France et l'Espagne, ça semble une évidence, quoi. Ça semble même un peu bête, parce qu'effectivement, il y a la montagne, donc forcément, ça sépare. Qu'elle relie, c'est plus étonnant, et le fait de l'affirmer ainsi, c'est même un peu surprenant. Et ce rapport dialectique entre ces deux mots, séparer et relie, je crois, nous oblige à peut-être envisager que les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. Alors, comme l'a dit Marie, tout commence par la marche, tout commence par la montagne. Nous sommes au Pays Basque, nous étions effectivement sur la traversée ouest-est. Et le temps n'était pas très beau, même assez brumeux. Et puis, on arrive à un col. Et comme souvent en Pays Basque, on a parfois des doutes sur le col auquel on arrive, surtout quand il y a un peu de brouillard. Et on voit dresser dans le paysage un panneau.
Enfin, un objet qui ressemble à un panneau.
Oui.
Donc on y va, parce que quand on est un peu perdu, ou pas perdu même, mais enfin quand on est en train de marcher et qu'on voit un panneau, ben forcément on y va.
Surtout quand on ne sait pas très bien où on est.
Et là, on arrive devant un objet qui est assez curieux parce que c'est effectivement un objet en bois qui est percé avec à l'intérieur, je ne sais pas trop si c'est une vitre ou si c'est du plastique.
Et, non, c'est du verre.
Et à l'intérieur de ce morceau de verre, il y a une phrase énigmatique ou poétique qui dit « d'un monde de l'autre ». Mais là, ça ne nous dit pas où on est. Mais par contre, ça nous dit « d'un monde de l'autre ». Alors bon, on se dit « de toute façon, ça doit être par là bon. ». Donc on continue à marcher.
Mais enfin, on fait quand même une photo parce que c'est quand même assez c'est surprenant.
C'est très étonnant. C'est resté un point d'interrogation, cette histoire-là. Et donc, on était en traversée de la grande traversée des Pyrénées. Donc, évidemment, on n'avait pas que ça à faire. Il fallait bien qu'on avance, on avance, on avance vers la Méditerranée. Donc, on ne s'arrête pas. Mais plus tard, dans un refuge, on a repensé à cette histoire-là grâce à l'excellente revue Pyrénées qui nous a raconté l'histoire des hirondelles. C'est l'histoire des hirondelles dans cette vallée. Des hirondelles.
Des hirondelles.
Oui. Ces hirondelles, c'était des jeunes femmes qu'on appelait les hirondelles dans la vallée de Roncal, au basculement entre les deux siècles, à partir de 1880 jusqu'à 1930. Des jeunes femmes espagnoles, donc c'est une histoire de pauvreté, l'Espagne, la vie était très dure, qui avaient donc qui avaient pris l'habitude de partir vers la France pour trouver du travail, parce qu'en France, dans la vallée de Mauléon, on fabriquait des espadrilles, et c'était juste au moment où les sandaliers s'organisaient et avaient besoin de main d'œuvre parce que au Pays Basque, il y a eu beaucoup d'exodes. Les jeunes gens sont partis en Amérique, aux États-Unis, je ne sais pas, en Amérique du Sud. Et donc, ces jeunes femmes se rassemblaient dans la vallée de Roncal. Elles partaient ensemble. C'était des jeunes filles, quelquefois des 13 ans, 14 ans, qui se rassemblaient à l'automne. On les appelait les hirondelles, peut-être aussi parce qu'elles étaient habillées en noir. Elles partaient ensemble. Et elles montaient donc dans la montagne. Elles passaient par ce col d'Ordaïté. Elles redescendaient. Elles descendaient les gorges de Cacueta. Et là, on les attendait pour les amener à Mauléon. Elles passaient l'hiver à Mauléon pour travailler dans les usines. Enfin, pas les usines, les ateliers de sandalerie. Voilà. Et elles faisaient comme ça leur trousseau pour pouvoir revenir se marier en France.
Et au printemps, elle revenait vers l'Espagne pour s'occuper des travaux des champs.
Alors, du coup, on est revenu faire ce chemin. On est reparti de Roncal, on a re-questionné tout ça, on a refait ce chemin. Et on l'a fait avec une autre intensité, dans un autre engagement, dans une autre... comment dire, dans notre tête, les choses avaient changé, en fait. On n'était pas les mêmes. On est arrivé évidemment, au même endroit, mais tout d'un coup, quelque chose avait changé. Et là, on est passé en chemin, à peu près à mi-chemin de la... Enfin, presque quand on arrive au col, un petit peu en contrebas, il y a une maison qui s'appelle une benta, la benta de Juan Pito, et qui restait à peu près en même état que du temps des hirondelles. Là, on a parlé avec le monsieur qui tient la benta, qui nous a dit « Oui, mon abuelo, mes arrière-parents, mes grands-parents tenaient aussi cette benta du temps des hirondelles. Ils les ont vus passer, même je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est réel, mais paraît-il qu'il sifflait, le monsieur qui tenait cette benta, il sifflait parce que, comme c'est un pays où il y a beaucoup de brouillard, il sifflait pour leur indiquer le chemin, c'est par ici. » Voilà. Et puis on était là, on mangeait très bien dans cette benta. Il y a aussi il y avait des journaux et on tombe justement sur un journal en Espagne qui parlait des migrants qui viennent d'Afrique et qui sont, ben en ce moment on en parle beaucoup aussi, et qui sont dans des situations dramatiques où certains risquent leur vie, certains les laissent et tout ça. Et du coup, tout d'un coup, il nous semblait que ça a fait... ça a fait un raccourci entre le passé et le présent qui était assez saisissable. Et dans ce journal, traduit en français, ça donnait, c'est un journal qui parle d'aujourd'hui. Ils risquent tout pour ce voyage. Certains y laisseront leur vie. Ceux qui atteindront leur destination savent que leur existence n'y sera pas forcément plus facile. Et là, tout d'un coup, on pensait à nos hirondelles qui, évidemment, elles aussi, montaient dans ces chemins escarpés, passées, etc. Voilà. Ça, c'est un peu, en fait, une façon de... d'évoquer la méthode de ce travail. C'est-à-dire, c'est une méthode qui... C'est un livre que nous avons fait en marchant, donc qui engage des histoires, différentes histoires, et qui les engage dans une observation de terrain et dans un aller-retour entre le terrain et la documentation ou la lecture de d'autres ouvrages.
Voilà, je crois que c'est ça. Et avec le, peut-être avec le challenge, l'ambition, c'est-à-dire, on voudrait dire ce que l'on voit, non pas raconter des choses qui n'existent plus, non pas raconter une montagne qui n'est plus la montagne rêvée d'il y a 50 ans, mais bien raconter la montagne aujourd'hui. Et cette phrase de Peggy, et surtout, ce qui est plus difficile, il faut toujours voir ce que l'on voit. C'est-à-dire vraiment s'attacher aussi à tous les signes qui sont présents sur le terrain et à ce qu'ils nous disent du passé, mais aussi ce qu'ils nous disent d'aujourd'hui et des enjeux du monde d'aujourd'hui, parce que la montagne n'est pas en dehors du monde. Et les enjeux de... Alors, typiquement, ce dont vient de parler Marie sur les mouvements de main-d'œuvre, ce sont des enjeux de production, c'est un enjeu société, etc. Voilà.
Voir ce que l'on voit, je crois qu'on voit chacun de nous... Nous voyons des choses différentes. En particulier, notre regard à nous, il est forgé par notre histoire, par notre engagement et par notre... On n'a pas dit ça, mais on est par notre vie professionnelle de designer graphique. On est très intéressé par les signes dans l'espace, toutes les traces, effectivement, qui disent aussi le paysage, l'histoire, voilà.
Et finalement, ce qu'on dit ici sur ce premier texte, finalement, nous l'avons appliqué pour ce livre. En fait, ce livre est un ensemble de fragments. C'est un recueil où il y a 16 chapitres, 16 textes, et 16 accompagnés chaque fois d'un récit en image, un récit en texte et un récit en image. Donc, si vous voulez, on va balayer un petit peu l'ensemble de ces passages, en sachant qu'on ne fera que survoler, parce qu'on n'est pas des très bons conteurs. Et puis, ça vous laissera le plaisir de découvrir, si vous voulez. Alors, par où on commence? Très classiquement, on commence par l'habit d'Assois, quelque part entre Andaï et Irun. Ça, c'est une gravure dressée par Sébastien de Ponto de Beaulieu, ingénieur du roi, qui représente donc l'île des Faisans, au milieu de la baie d'Assois. Et c'est les aménagements qui ont été faits à l'occasion de la signature du traité des Pyrénées. Alors, traité des Pyrénées, c'est quelque chose de très récent, finalement. 1659, Louis XIV, c'est à cette occasion que la frontière a été établie entre la France et l'Espagne. Donc, la frontière, ce massif montagneux que nous pensons spontanément comme une frontière, jusque-là, n'avait pas cette fonction de séparation entre deux États qui eux-mêmes n'existaient pas. Donc c'est bien au moment où se constituent deux États forts, un en France et un en Espagne, que que vient cette décision politique de tracer une frontière. Ça ne va pas de soi, parce que les Pyrénées sont pratiquées souvent en complémentarité, en synergie entre leurs deux versants. On connaît ici l'entité du Pays Basque, ou à l'autre extrémité de la chaîne, l'entité de la Catalogne. Mais on peut se rappeler aussi que Pau était dans le royaume de Navarre, qui s'étendait tout aussi bien côté nord que côté sud, vers Pampelune. Toujours est-il qu'en 1659, après la guerre de 30 ans entre les deux royaumes, Richelieu, représentant Louis XIV, et Louis de Haro, représentant le roi d'Espagne, se rencontrent, tiennent une conférence dans un endroit choisi avec précaution. Donc on choisit une île de presque rien, où il n'y a pas d'enjeu stratégique, et s'y tiennent des conférences. Donc ça dure un certain temps, et puis au bout d'un moment, on arrive à un accord, et pour céder cet accord, il y a effectivement l'acte symbolique du mariage du roi avec l'infante d'Espagne. Et donc on fait cet aménagement quelque part pour matérialiser un passage par lequel la fiancée royale viendra, côté français, vivre le reste de sa vie.
Et cette île des conférences, là, ou l'île des faisans, sur la Bie d'Assois, c'est quelque chose qui représente effectivement, historiquement, un endroit très, très important. Quand on est sur le terrain, c'est rien du tout. C'est une toute petite île au milieu d'une rivière.
Une petite rivière.
On est surpris de se dire, bon, alors, quand on va là, on se dit, mais enfin, il faut qu'on trouve quelque chose là-dessus. Alors, on fait le tour.
Après, je voulais finir sur ça. Je suis juste sur... C'est un géographe qui s'appelle Jacques Lévy qui dit d'une frontière que la frontière, c'est à la fois une porte et une ligne de front. Et je trouve que cette image, si on la regarde, elle matérialise ça. Elle matérialise quelque part une ligne de front, parce que l'île était partagée en deux dans le sens de sa longueur. Et puis, il y avait une porte qui était ouverte pour que la fiancée royale puisse traverser la rivière. Et quelque part, si on regarde ce que disent les images, cette image nous dit que en 1659, effectivement, la frontière s'institue symboliquement comme une porte, une ligne de front, et que dorénavant, on ne passera pas n'importe où, mais seulement en des lieux qui seront gardés par la douane ou le service de police. Juste ça sur l'image. Et puis, ça, c'est aujourd'hui, donc la Bie d'Assois. Il n'y a plus de frontière entre la France et l'Espagne. Sur le pont là, qui est au premier plan, il y a deux panneaux. Quand on va vers le sud, il y a marqué Guipuscoa, et quand on va vers le nord, il y a marqué Lapurdi, le Labour. Donc on est dans un pont entre deux provinces basques, qui n'est marqué nulle part, ni France ni Espagne. La frontière, quelque part, n'existe plus. Et pourtant, c'est de chaque côté de la rivière, ce n'est même pas le même pays. D'un côté, il y a des maisons basses, de l'autre côté, des immeubles plus hauts. Les restaurants n'ouvrent pas à la même heure, etc. Donc cette ligne symbolique de la frontière qui a été établie en 1659, les bornes ont été posées quasiment deux siècles plus tard, en 1850, et la frontière a été supprimée par les accords de Schengen, enfin supprimée avec les guillemets. Mais la différence continue. Next.
La rune. La rune, c'est une montagne symbolique, une montagne qu'on voit de partout en Pays Basque, la montagne des Basques, et en même temps, une montagne qu'on avait longtemps, je pense, un peu dédaignée, parce que c'est une montagne très touristique, tout le monde y va, il y a un petit train à crémaillère qui monte là-haut.
Il y a des antennes.
En fait, se rendre à la rune, c'est très intéressant, c'est très fort et c'est formidable parce qu'évidemment, c'est d'abord un très très beau point de vue. C'est une montagne qui est isolée, donc évidemment, c'est un point de vue à 360 avec d'un côté la côte, l'autre côté le sud, les montagnes. Voilà, c'est extraordinaire. Et puis, c'est phénoménal. La possibilité qui est donnée à plein de gens d'aller admirer ce paysage-là. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, quand on y est allé pour ce livre, Bertrand disait, il faut regarder, il faut observer le paysage, tout ça. J'arrivais pas à observer le paysage. Moi, je voyais que les gens. Je trouvais ça tellement beau de voir tous ces gens qui regardent le paysage. Et du coup, on a fait des photos de regardeurs, en fait. Voilà. Et après, on est retombé sur une réflexion de Franz Schrader qui parlait justement de l'aménagement de la montagne à l'époque où elle n'était pas aménagée et qui se posait cette question, qui disait est-ce qu'il faut faire des trains à crémaillère pour monter au sommet? Et puis finalement, il conclut. Alors ça, c'est des débats. Hein. On pourrait se dire que finalement, non, il faut y aller à pied. Voilà. Mais lui disait quelques sommets. C'est intéressant de laisser tout le monde la possibilité de monter, celui qui peut monter ou celui qui ne peut pas monter, de laisser tout le monde arriver à ce sommet.
Tu pourrais dire ce qu'il dit, Schrader, je trouve que c'est assez beau. Que m'importe.
Que m'importe qui est mon voisin si mon cœur bat à l'unisson du mien. Voilà. On y va de plus en plus à la montagne, on y va avec des forces inégales, il faut donc la rendre accessible. Accessible jusqu'à où et à qui ? À tous, répondrons-nous nettement. Voilà, je trouve que c'est une réflexion des premières personnes qui ont imaginé l'aménagement de la montagne et qui se sont vraiment posé ces questions-là. Voilà. Et maintenant, encore récemment, on est retourné à la rune. Et c'est encore ça. C'est vrai que c'est très touristique. C'est vrai et que c'est bien, quoi.
Mais on n'est pas obligé d'y aller d'abord quand il y a beaucoup de monde. Et puis, c'est Miguel Angulo qui décrit, je pense, 8 itinéraires possibles pour monter. Donc, il y a le choix pour monter à pied et pour varier les plaisirs.
On continue à filer, peut-être.
On continue à filer.
Ouais.
Oh, c'est dans la suite. Quand on cheminait en traversée, ce qui nous a beaucoup marqué au Pays Basque, finalement, ce sont les bentas, parce que on partait avec la tente, avec les provisions, mais finalement, il y avait toujours régulièrement des endroits où on pouvait s'arrêter pour manger et boire. C'était bon, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'après, c'est pas comme ça. Mais voilà. Donc, ces bentas, qui étaient une institution assez typique du Pays Basque, donc développée à partir des années 1950, surtout 1960, quand l'Espagne franquiste s'est un peu ouverte au tourisme et que se sont établis donc ces commerces à la frontière, juste à la frontière. Ça, c'est le col d'Ispegui, et c'est la première benta qui a été installée là, juste devant. On a la barrière de la douane, rouge et blanche, et la benta juste à côté. Logiquement, avec la libre circulation des personnes et des biens, il n'y a pas de raison que perdure un commerce à la frontière. Il n'empêche que oui, certaines zones évoluent même vers des équipements plutôt de style zone commerciale ou supermarché, mais d'anciennes bentas, un peu perdues dans la montagne, s'inventent une nouvelle vie autour de la cuisine, autour d'autres types d'échanges, essayer d'inventer autre chose.
Alors, ces bentas, les plus anciennes, comme ça, certaines sont restées encore assez dans leur jus. On y vendait de l'hispanicité, c'est-à-dire c'était le premier endroit où on arrivait en Espagne. Du coup, on y vendait même des castagnettes, des robes de danseuses de flamenco. Enfin, c'est vraiment l'hispanicité qu'on vendait. Maintenant, on y rajoute à ces signes-là, sont rajoutés les signes de la basquitude qui n'existaient pas dans les années 60 parce que c'était plutôt réprimé, ce truc-là. Et puis maintenant, se rajoute une nouvelle couche encore. Ben là, c'est la mondialisation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des bentas qui sont des gros supermarchés. Oui. Voilà.
Branding.
Du coup, on a un mélange de signes ici qui raconte aussi l'histoire du XXe siècle, XXIe siècle.
Je peux ?
Oui, vas-y.
Depuis que Francine est là. c'est les aéroports, écrit Rem Koolhaas. Donc, les aéroports donnent à sentir un premier extrait condensé de l'identité locale, un concentré de l'hyperlocal et de l'hypermondial. Hypermondial, car vous y trouverez des marchandises qui ne sont même pas vendues en ville, et hyperlocal, car vous y trouverez des choses que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Et finalement, c'est un peu ça, les Bentas, aujourd'hui.
Parce qu'on trouve encore, il y a des Bentas où ils vendent des cloches de vaches, et en même temps aussi,
On trouve des graines de cannabis qui viennent de Hollande, mais pour la plantation uniquement.
Les portes de Cise. Ça, c'est un autre passage. Peut-être on va faire plus rapide.
Oui, mais c'était quand même impressionnant parce qu'effectivement, tout d'un coup, dans la montagne, alors qu'on marche comme ça, en face, en perpendiculaire, une procession.
Oui. Là, on est au-dessus de Saint-Jean-Pied-de-Port et on croise les ports de Cise. Et là, on est sur un des plus importants chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, quand, la première fois qu'on a vu ça, nous, on l'a observé un peu du dessus puisqu'on est arrivé en traversée. Ça nous a beaucoup, beaucoup impressionnés parce que c'était réellement une procession de gens dans la montagne avec des sacs à dos. Et ça nous a tellement impressionnés qu'on a eu envie de... Bon, on a compris évidemment que c'était le chemin de Saint-Jacques. Et on a vraiment eu envie de nous aussi se mettre en chemin pour le faire au moins sur une étape pour le vivre. Donc, on est parti de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Roncevaux. On a fait ça une belle journée du mois d'août. Voilà, on s'est trouvé un parmi 400. Du coup, on s'est trouvé automatiquement pèlerin, puisqu'on ne peut pas être autre chose que pèlerin quand on fait ça. Du coup, on s'est quand même peu demandé ce qu'on faisait. Voilà. Mais finalement, là aussi, on a rencontré... on a eu plaisir à vivre cet engagement avec ces gens si différents, de tant de nationalités, de tant de conditions physiques, de tant de projets différents, que c'est exceptionnel. Voilà. Par contre, quand on va, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est prévu pour y aller. Mais personne ne revient. Et nous on voulait revenir parce qu'on avait laissé notre voiture à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, on a dormi à Roncevaux. Le lendemain, on voulait revenir. Donc,
ça, c'est le premier balisage du chemin. C'est une flèche jaune donc, qui est dirigée vers Compostelle.
Voilà.
Ça a un mérite. C'est que quand on est sur un GR, on ne sait pas forcément dans quel sens. Là, c'est clair. Voilà.
Donc, le lendemain, on est revenu. On a trouvé les 400 personnes du lendemain qui montaient à notre rencontre. Comment? En plus, c'était un jour de brouillard, c'était un peu étrange. Et beaucoup de gens étaient surpris, en fait, de voir des silhouettes dans l'autre sens. Même à certains moments, il y en a certains qui ont pensé que c'était eux trompés de chemin. Ou bien nous ont demandé, mais vous faites quoi? Vous avez oublié quelque chose? Enfin, voilà. Et finalement, on était partis un peu goguenard peut-être, un peu étrange sur cette histoire-là. Et on est revenu, notre regard avait quand même changé. On est revenu en se disant que voilà, c'est à la fois un phénomène, y compris un phénomène touristique, parce que finalement, 400 personnes tous les jours, ben, il faut les loger, il y a toute une infrastructure à trouver, il y a des hébergements, voilà. Du coup, ça provoque aussi des fonctionnements particuliers, c'est-à-dire notamment les gens ne s'arrêtent pas, les gens vont à fond. Pourquoi ? Parce qu'il faut être arrivé le premier pour avoir un hébergement. Donc, nous, on cassait la croûte tranquillement, mais on les voyait tous marcher, voilà. C'est une scène, c'est un phénomène particulier.
Mais en même temps, c'est un phénomène qui est... on en rit parce que ça devient presque une pratique de tourisme de masse, effectivement, avec tout ce qui s'installe autour, les chambres d'hôtes. On n'est pas forcément très bien reçu parce que ça va, quoi. Les pèlerins, ils en passent 400 par jour. Ça fait 45 000 dans l'année au départ de Saint-Jean, Pied-de-Port. Donc, on pensait que plus loin, une fois que les chemins auront convergé, c'est plus que ça. Donc, effectivement, c'est un, on est au-delà de bien au-delà de ce qu'était la fréquentation à la grande époque des pèlerinages, quoi. On est bien au-delà.
Peut-être qu'on peut arriver jusqu'à la fin, puis après.
Oui.
Je veux dire, tu sais, parce que.
Je veux dire quoi ?
Peut-être qu'on peut, parce qu'on ne va pas tous les passer là. On peut arriver jusqu'au dernier, puis après on fait un échange.
Je fais quoi alors ? Je passe les photos. Je passe les photos.
Non, je me demande si on va pas tous passer tous les passages. Là, on a déjà engagé plusieurs.
Donc on fait vite.
On file.
Ouais. Donc on fait vite. Donc ça, si vous savez pas quoi faire le 13 juillet, vous allez au col de la Pierre Saint-Martin et vous pourrez assister à la reconduction d'un traité qui est entre la vallée de Roncal et la vallée de Barétous, qui est, paraît-il, le plus ancien traité international encore en vigueur en Europe. Traité de Lier-Passerie qui va fêter son 640e anniversaire. Ça, c'était à la fin du 19e, ça, c'était l'année dernière. Le rituel est semblable. À la place des militaires, c'est nous qui venons assister à ça.
Très beau moment, une fête culturelle, très beau moment.
Ensuite, numéro 7, s'il devait y avoir qu'un seul passage dans ce livre, c'était le plus photogénique, c'était certainement la brèche de Roland. Ça, c'est la représentation de la brèche sur la carte de Cassini, une sorte d'arc de triomphe à l'envers, parce que ça ne peut pas être juste un phénomène géologique, c'est forcément quelque chose de plus, cette brèche de Roland. Voilà.
C'est magistral de traverser cette brèche. C'est forcément une émotion.
Et où l'on apprend que ce n'était pas que c'était un passage qui a été aussi largement emprunté pour les échanges entre les vallées, même y compris des échanges de marchandises, malgré la difficulté du chemin.
C'est ça qui est formidable dans les Pyrénées. C'est-à-dire que c'est vrai que ces Pyrénées étaient vraiment franchies régulièrement, y compris dans des chemins très escarpés, avec des mules ou pour transporter du matériel. Voilà.
Juste un peu plus loin, numéro 8, on peut dire que c'est le début d'une pratique urbaine de la montagne. Ça, c'est Ramon de Carbonnière. Donc, on est juste après la Révolution française. Et Ramon part aux Pyrénées essayer de comprendre comment ces montagnes se sont formées. Et il cherche le Mont Perdu qu'il a aperçu depuis le pic du Midi de Bigorre. Mais ce Mont Perdu, on ne sait pas par où y accéder, parce que plus on s'approche, moins on le voit. Donc il fait l'hypothèse que par la vallée d'Estobé, il va pouvoir s'en approcher. Et certainement, quand il est là, il pense que s'il monte par cette brèche, la brèche de Tuquerouille, il va pouvoir continuer vers le Mont Perdu qui est ici. Donc c'est assez raide, mais il monte. Et en fait, non. Quand on est à la brèche du Tuquerouille, il faut encore descendre. Et le Mont Perdu, on est loin d'être arrivé. Mais cette brèche, c'est quand même un endroit, un point de vue assez magistral, devant la face nord du Mont Perdu. Et Ramon a cherché un chemin. Et il a trouvé effectivement un point de vue. Et aujourd'hui, dans cette brèche, il y a un refuge. Ça, c'est le premier refuge des Pyrénées, première construction dédiée à la pratique de la montagne, de l'alpinisme ou du pyrénéisme, je ne sais pas comment il faut dire. Première construction qui n'est pas une cabane traditionnelle, qui est un projet qui a été dessiné pour résister aux conditions dures de cette brèche et qui résiste. Qui existe encore, qui a été doublé. Aujourd'hui, c'est la même chose, mais dupliqué en deux. Il faut juste rendre hommage au fait que cette construction, ce qu'on ne dit jamais, a été pensée par un architecte, qui est un architecte bordelais, qui s'appelle Alphonse Blaquière, qui est un des descendants de la dynastie de la Clotte. Voilà, c'est une construction toute simple, mais assez sophistiquée dans son dessin et dans sa mise en œuvre.
Voilà. Le site est extraordinaire, évidemment.
Oui, voilà. Chemin faisant, quand on arrive au port de Baroud, donc
On voit dans le paysage.
Donc on est assez haut, on est à 2500 à peu près.
Et on voit une trace dans le paysage qui est assez étonnante. On se dit, mais c'est curieux, ça, il y a un chemin qui passe là. Mais qu'est-ce qui fait ce chemin? Parce qu'évidemment, il est en contrebas des crêtes. Il est visiblement à un endroit où il y a une différence de roche. Donc un endroit déjà un peu marqué, mais il est plus marqué que simplement naturel. Donc voilà, on a cherché, d'autant plus curieusement qu'on avait un de nos grands amis qui nous avait parlé de ce chemin. C'est le chemin qu'on appelle le chemin de la mine. Et on pense que, enfin là, je ne sais pas si c'est exactement ça ou non, mais on pense que c'est un chemin qui était emprunté en tous les cas.
Donc ça, pour c'est aller, ce chemin qui va côté espagnol, sous le pic de l'Iéna, où il y avait des mines de plomb argentifère. Donc on pense qu'il y a des Français qui devaient emprunter ce chemin pour aller travailler aux mines. Et l'ami en question nous avait dit ce chemin étant un peu croulant, il vaut mieux courir quand on passe dans des endroits difficiles. C'est un physicien émérite, donc je vois le crâne là-bas. Et donc il y a moins de chances que le chemin s'écroule.
Non, on passe plus vite, comme ça on risque moins, on reste moins longtemps.
C'est ça, voilà. Ça, c'est une logique...
logique de physicien.
De physicien. Un peu plus loin, toujours dans ces zones-là, Cirque de la Gela, ça c'est une photo prise par les photographes du studio Alix, les bannières de Bigorre, les bannières de Bluchon. Bigorre, oh putain, pardon. Je ne voudrais pas mettre ça sur le podcast. Et donc, qui représente effectivement la retirada, le franchissement de la montagne par les populations et l'armée républicaine, 43e division de l'armée républicaine. Le rôle de la photographie pour garder présent cet événement dans ces montagnes qui n'ont pas changé, qui ont vu ça. On va plus loin, numéro 11, de part et d'autre du port de Bénasque, il y a d'un côté un hospice, de l'autre côté un autre hospice. Et le chemin qui est entre les deux permettait là aussi de regarder la malade d'État, mais aussi de faire transiter des convois de mules et de mulets pour transporter toutes sortes de choses.
Ça, c'est intéressant. C'est un aménagement de la montagne. Alors là, pour le coup, non pas pour le pyrénéisme ou pour la pratique sportive, mais vraiment pour la pratique de transport des marchandises. Et l'aménagement en question consiste en deux hospices et un chemin. Et les hospitaliers, les gens qui avaient la garde de chacun des hospices, étaient chargés d'entretenir le chemin. Alors là, sont passés à la fois un commerce tout à fait, enfin pour fréquenter les foires du côté français, un commerce tout à fait légal, et puis aussi sont passés des commerces de contrebande.
Tout près de là, Norbert Casteret, maman et les copines de madame sont venues répandre la furacéine. Pour établir le cours des eaux de la Garonne, passage des eaux, passage du train, et ces 23 cm qui font la différence entre les voies côté français et les voies côté espagnol, ce qui fait que pour des raisons sans doute militaires, ça n'a pas tellement facilité les choses pour faire circuler ce genre de machine. Pardon, excusez-moi. Ça, ce n'est pas la Corse, ce n'est pas une île, c'est une enclave espagnole en territoire français, parce que le fameux traité des Pyrénées avait tracé une ligne au milieu du plateau de Cerdagne, qui n'est pas spécialement montagneux, mais une ligne arbitraire au milieu. Et il avait été écrit que les villages concernés de ce secteur seraient rattachés à la France et les villes seraient rattachées à l'Espagne. Donc Livia, qui était une petite bourgade, devait normalement être rattachée à la France, mais il avait été écrit, je ne dirai pas quand, quelques siècles plus tôt, que Livia était une ville. Donc Livia est restée espagnole. Donc c'est une enclave en territoire français qui est toujours reliée à l'Espagne par une route neutre avec une libre circulation.
Oui, c'est formidable d'aller à Livia parce qu'effectivement on est en Espagne. Donc tous les signes dans les rues de la ville ou enfin, de ce gros bourg sont tous les magasins. On parle espagnol, les magasins sont espagnols et on est juste.
Voilà, juste et il y a 45 bornes frontières qui déterminent le territoire de Livia. On se rapproche de la Méditerranée. Ici sont sans doute passés Hannibal et ses éléphants. Voilà. Sont aussi passés les armées de Pompée qui sont allées soumettre les révoltés au sud. Et Pompée a fait construire ici, donc au col du Panissard, c'est-à-dire tout près du col du Pertus, un trophée à sa gloire, un trophée donc sur le col de 30 mètres de haut quand même, dont on a retrouvé il y a une quinzaine d'années les fondations. Donc ça c'est la voie, là, ici se croisent deux voies romaines, enfin se rejoignent deux voies romaines, donc ça c'est le tracé de la voie romaine. La borne frontière établie posée au XVIIIe siècle, le nord et le sud. Le Pertus, là aussi la retirada, le réfugié. Au début des années 60, l'Espagne dit bienvenue, donc monument de bienvenue, un peu moderniste, mais un peu quand même dur, voilà, sur l'accueil en plusieurs langues, français, anglais, allemand, etc. Bienvenue à ceux qui viennent, à ceux qui repartent. Ça, je ne sais pas si l'intention de Ricardo Bofill était de rendre hommage à Pompée, mais c'est effectivement une pyramide établie là aussi à la frontière au moment où a été ouverte l'autoroute, toujours au même endroit, au col du Pertus. Donc c'est un col modeste où on trouve plein de choses. Aujourd'hui, La Frontera, c'est le nom d'un supermarché.
Mais là, il y aurait un livre entier à faire. Oui. Dans ce petit territoire, finalement, sont rassemblés finalement des siècles d'histoire qui ont laissé chaque fois leurs traces. Et voilà. Et maintenant, on est dans une cohue de personnes qui viennent pour chercher pour se ravitailler en denrées détaxées.
Voilà, et on terminera avec Walter Benjamin. Walter Benjamin, donc, penseur important, pour nous en tout cas, donc qui cherchait à fuir le nazisme, qui a essayé différentes options et qui finalement... s'est retrouvé à partir par la montagne de Banyuls avec l'objectif de passer à Portbou et de là traverser l'Espagne et le Portugal pour partir aux États-Unis. Donc Walter Benjamin n'était pas en très grande forme, c'était pas un sportif très... Voilà. Il a donc traversé, il a fait cette traversée de Banyuls à Portbou. Accompagné par de ses compatriotes qui servaient de passeurs entre notamment pour les juifs provenant d'Allemagne. Et puis Walter Benjamin est arrivé à Portbou, assez épuisé. Le récit qu'on a de cette traversée est effectivement assez touchante, assez difficile. Et un honnête homme, il va se présenter à la Guardia Civile pour dire voilà, j'arrive en Espagne et je vais gagner les États-Unis et penser qu'il était sauvé. Et les policiers sur lesquels il tombe lui disent vous êtes rentré frauduleusement, demain on vous raccompagne à la frontière. Voilà, donc on le consigne dans un hôtel et puis le lendemain il était mort.
Alors, le chemin de Walter Benjamin, là, qui est balisé depuis Banyuls jusqu'à Portbou, est extraordinairement beau. On monte dans les vignes au-dessus de la Méditerranée, c'est exceptionnel. Et évidemment, quand résonne cette histoire, tous ces passages, hein, mais notamment cette histoire-là qui est peut-être symbolique des événements les plus graves qui se sont passés, on est pris par ce contraste entre tant de beauté, tant de douleurs, tant de souffrances qui se sont passées ici. Et en même temps, c'est cette densité aussi, finalement, à la fois de l'engagement et à la fois de ce qu'on rencontrait en marchant là, qui nous a engagés à écrire ce livre passage. Et c'est aussi là que nous avons trouvé le titre, c'est-à-dire que le livre de Walter Benjamin, celui qui portait dans sa mallette, là, ça s'appelle
le
livre des passages. Donc passage, c'est presque pareil que le livre de passage. Et c'est aussi ça qui nous a mis en chemin, en fait, pour engager l'ensemble de ces passages. Voilà, donc c'est comme ça qu'on reboucle un peu notre boucle du départ.
Voilà, Portbou, sa gare, et la borne 601, qui est juste avant la borne 602, qui, elle, est quasiment dans
C'est la dernière mer. Borne frontière.
Oui, enfin, l'avant-dernière. Dernière, quasiment les pieds dans l'eau. Voilà, un petit peu l'histoire de ce livre, donc qui se voudrait un peu dans les deux sens, comme l'a dit Marie, c'est un livre qui a été fait en marchant, et c'est aussi un livre qui voudrait inciter à aller marcher, c'est-à-dire qu'après chaque texte, il y a quelques indications pour se retrouver, trouver son chemin pour aller emprunter quelques-uns de ces passages.